Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 10 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine. Et on va partir à la rencontre de Myriam Lieberman, musicienne de Sydney qui vient de lancer son 5e album. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 10 octobre, le Victoria enregistre ce dimanche 1890 cas de Covid-19 et 5 décès. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 477 nouveaux cas de Covid et 6 décès et c'est le dernier jour de confinement en Nouvelle-Galles du Sud. Et en sport tennis, l'Australienne Alia Tomljanovic enregistre sa première victoire contre une joueuse du top 10 cette année à Indian Wells. Le Victoria a signalé 1890 infections au Covid-19 ce dimanche et 5 décès. L'État est sur le point d'enregistrer plus de 2000 infections quotidiennes au coronavirus alors que la recherche des contacts est réduite pour se concentrer sur les cas positifs et les cas primaires. Les responsables de la santé ont décidé que les contacts étroits secondaires ne seront plus tenus d'isoler car les autorités modifient leur processus pour gérer l'augmentation du nombre de cas. En attendant, les inquiétudes pour la ville frontalière de Mildura, qui est entrée dans un lockdown depuis vendredi soir. Mildura a maintenant un total de 37 infections. Et hier, 40 000 personnes se sont fait vacciner dans le Victoria. On écoute le chef de l'État, Daniel Andrews.
It's only a couple of weeks to go. I'm so proud of everything that Victorians have done, everything that Victorians have given. It is humbling to watch and see just how so many acts of kindness, people looking out for each other, people understanding that we are all in this together and that we'll get through it together. But getting vaccinated is absolutely the key. So I would encourage people, and the numbers are terrific. The numbers are growing every single day. It is our way out.
Un officier de la police du Victoria a démissionné après avoir publiquement exprimé ses objections à l'application des restrictions de verrouillage de Covid de l'État. L'ancien sergent par intérim, Crystal Mitchell, a fait les commentaires vêtus d'un uniforme complet dans une vidéo sur un site de médias sociaux anti-verrouillage. Madame Mitchell déclare qu'une majorité de policiers qu'elle connaît et qui travaillent en première ligne ne croient pas ou ne veulent pas appliquer les ordres du médecin en chef.
The consequences of me coming out publicly would be dismissal. So I'm choosing to quit and I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which my organization that I love to work for is being used and the damage that it's causing in the reputation of Victoria Police and the damage that it's causing to the community.
Dans un communiqué, la police du Victoria a déclaré que les commentaires de Madame Mitchell ne reflètent en aucun cas les vues de l'organisation. La police du Victoria affirme que Madame Mitchell n'a jamais participé à aucune manifestation et a été employée dans un rôle non opérationnel. Elle indique que l'affaire fait l'objet d'une enquête par le Professional Standards Command. Le Premier ministre Scott Morrison a rappelé à l'Australie-Occidentale qu'elle devait traiter la pandémie avec un niveau d'urgence élevé. Scott Morrison déclare que la sortie de la pandémie, les fermetures de frontières, les restrictions et les communautés perturbées sont la vaccination, exhortant le pays à rester connecté. Le gouvernement fédéral met en place les réductions prévues des frais de garde d'enfants, les subventions supplémentaires pour les familles avec deux enfants ou plus prises en charge devaient commencer en juillet dernier, mais elles commenceront désormais en mars prochain. Le ministre de l'Éducation, Alan Tudge, a déclaré que s'ils avaient pu le faire maintenant, cela aurait été fait. Il déclare qu'ils ont fait adopter la législation plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu.
We've been working across the government departments to streamline the process, working with the third-party software providers, and we now have great confidence that it all can be built by the 7th of March. We've now got the advice that says the 7th of March is the fastest date that we can get this up and running, and of course we want to give those benefits out to families as quickly as possible.
Les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud, entièrement vaccinés, se sont réveillés pour leur dernier jour de confinement après 15 semaines. L'État commencera à assouplir les restrictions à partir de demain, lundi 11 octobre. New South Wales est désormais l'une des juridictions les plus vaccinées contre le COVID-19 au monde, car la population a atteint 90% de couverture pour la première dose. La médecin-chef, Dr. Kerry Chant, a déclaré qu'un nouveau variant du Delta avait été trouvé dans l'ouest de Sydney, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter à ce stade. Elle déclare que c'est lié à un voyageur international qui s'est rendu dans la ville de Sydney le mois dernier.
The exact mechanism of how that new Delta strain emerged and got into the community in Western Sydney is still under investigation. So we will update you as those investigations continue, but I just want to reassure you that there's nothing about this new Delta strain from looking at the genomics that suggests that it's any more transmissible, any more going to cause illness or any other issues additional to the current Delta strain.
Il y a eu 477 nouveaux cas de COVID enregistrés ce dimanche et 6 décès en Nouvelle-Galles du Sud. Les groupes de santé autochtones font pression pour un financement soutenu afin de mieux soutenir la communauté aborigène et de combler l'écart en matière de santé mentale. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale ce 10 octobre, l'Organisation nationale de santé contrôlée par la communauté aborigène met en évidence les taux de suicide chez les autochtones. Les chiffres nationaux sur la santé montrent que le suicide représente 5,7% de tous les décès dans la population des Premières Nations et 1,9% chez les non-autochtones. Le thème de cette année pour l'événement du dimanche est « Soins de santé mentale pour tous, faisons-en une réalité ». Pour le soutien en santé mentale, Lifeline est disponible 24 heures sur 24 au 13 11 14 ou Beyond Blue au 1300 22 46 36. Des manifestants en Italie se sont heurtés à la police anti-émeute près du Parlement italien à Rome. C'est après que des milliers de personnes ont protesté contre une règle gouvernementale exigeant des vaccins COVID-19 ou des tests négatifs récents pour accéder aux lieux de travail à partir de la semaine prochaine. La certification en Italie, connue sous le nom de Green Pass, prend effet le 15 octobre prochain et s'applique aux lieux de travail publics et privés. Les talibans ont exclu de coopérer avec les États-Unis pour contenir les groupes extrémistes en Afghanistan avant les premiers pourparlers directs entre les anciens ennemis depuis le retrait des forces alliées du pays en août dernier. De hauts responsables talibans et des représentants américains se réunissent ce week-end à Doha, la capitale du Qatar. Des responsables des deux côtés ont déclaré que les problèmes comprenaient la maîtrise des groupes extrémistes et l'évacuation des citoyens étrangers et des Afghans du pays. Les talibans ont fait preuve de flexibilité sur les évacuations. Au moins 20 personnes ont été tuées dans l'état nigérian de Sokoto après que des hommes armés ont attaqué un marché et incendié des voitures alors que des gangs armés continuent de faire ravage dans le nord-ouest du pays. Un responsable de la police de Sokoto a confirmé l'attaque mais n'a pas pu dire dans l'immédiat combien de personnes avaient été tuées. Le président chinois Xi Jinping s'est engagé à réaliser la réunification avec Taïwan, affirmant que l'indépendance du pays est un danger caché pour le rajeunissement national. Les commentaires interviennent après une semaine de tensions avec l'île, revendiquée par la Chine. Des tensions qui ont suscité l'inquiétude internationale. Taïwan, gouverné démocratiquement, a subi une pression militaire et politique accrue de Pékin pour accepter sa souveraineté. On écoute le président chinois.
Taiwan independence is the greatest obstacle to national reunification and a serious hidden danger to national rejuvenation. Those who forget their heritage, betray their motherland and seek to split the country will come to no good and they will be spurned by the people and condemned by history.
Et en réponse au discours, le bureau présidentiel de Taïwan a déclaré que l'avenir de Taïwan était entre les mains de son peuple. En Autriche maintenant, avec la démission du chancelier Sébastien Kurz, suite à une enquête sur des allégations de corruption. Les précisions de Isor Yass pour Radio France Internationale.
Sébastien Kurz a finalement choisi le compromis. Après la révélation ce mercredi que lui et plusieurs de ses proches étaient visés par une enquête pour diverses infractions de corruption, les Verts qui gouvernent à ses côtés avaient pris leur distance. S'ils souhaitaient poursuivre la coalition avec le Parti conservateur, ils exigeaient le départ de Sébastien Kurz. Ce dernier avait dans un premier temps affirmé qu'il resterait à son poste, mais se trouvait sous la menace d'une motion de censure, motion que l'opposition souhaitait présenter mardi prochain au Parlement et que les Verts aurait peut-être voté, permettant ainsi son adoption. Le jeune conservateur a finalement annoncé ce samedi soir qu'il démissionnait de ses fonctions de chancelier afin d'éviter, dit-il, des mois de chaos ou d'impasse. « Mon pays est pour moi plus important que ma personne », a-t-il ajouté, tout en niant de nouveau les accusations dont il fait l'objet. Il restera toutefois chef du parti conservateur et prend également la tête du club parlementaire. L'actuel ministre conservateur des Affaires étrangères devrait le remplacer placé à son poste de chancelier.
Le prix des maisons flambe au Royaume-Uni avec près de 7% d'augmentation depuis les 4 derniers mois. Explication de Marie Boéda pour RFI.
La course à l'espace, disent les agences immobilières. La pandémie a changé le mode de vie des Britanniques. Pendant le confinement, ils se sont rapprochés de la nature. Les maisons de campagne sont devenues attractives et ça se ressent sur les prix. 9% d'augmentation pour les maisons contre 6% pour les appartements. John possède une propriété qu'il souhaite vendre pour acheter plus grand. Il regarde avec attention les annonces immobilières devant une agence de Londres.
Cette année, il y a eu une augmentation brutale des prix, mais je pense qu'ils sont artificiellement élevés, donc je n'achèterai pas maintenant. J'attends la fin de l'année et il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait baisser.
C'est aussi ce que pense Halifax, l'une des plus grosses agences de prêts bancaires du pays. Ségolène Chambon dirige une agence immobilière à Londres. Si le prix de vente a augmenté de seulement 1% dans la capitale, celui de la location monte en flèche.
Environ 15%. Cela est dû notamment au retour massif des personnes qui étaient parties travailler à la campagne notamment et qui retournent travailler en présentiel dans leur bureau. Donc il y a une énorme demande, peu d'offres, un manque de stock dans les agences immobilières qui fait augmenter les prix.
Certains jeunes travailleurs sont contraints de rester chez leurs parents en attendant que les prix baissent. Un agent immobilier londonien raconte qu'il reçoit tous les jours des clients en larmes car il ne trouve rien à louer.
En France, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a lancé son nouveau parti, Horizon, depuis son bastion du Havre. Reportage Julien Chavannes pour RFI.
Pourquoi Horizon ? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin.
Pendant 2 heures, Édouard Philippe a fixé l'horizon de la France pour 2050. Debout, sans pupitre ni prompteur, une main dans la poche, il parle crise migratoire, environnementale, de la dette et de la sécurité aussi. Mais attention, Édouard Philippe insiste, il ne s'attaque pas au bilan d'Emmanuel Macron.
Quand je dis qu'il faut impérativement mettre ou remettre l'ordre dans nos comptes et dans nos rues, je ne suis certainement pas en train de critiquer le président.
Le maire du Havre le promet, il se mettra au service du président sortant.
La réélection du président de la République, elle passera par l'élargissement de sa base électorale.
Un allié, pas un concurrent. Édouard Philippe s'adresse ici à certains de ses collègues de la majorité qui l'accusent de jouer cavalier seul, de préparer sa campagne pour 2027. Tout va bien, assure le patron des députés marcheurs, Christophe Castaner, venu en délégation au Havre.
Mais quelle drôle d'idée vous avez. Évidemment, nous sommes à notre place, à ses côtés aujourd'hui et nous serons ensemble pour préparer la campagne présidentielle.
Les nouveaux adhérents à Horizon pourront avoir une double appartenance, une porte ouverte pour récupérer les déçus de la droite modérée après la prochaine présidentielle. Édouard Philippe voit loin, plus loin que 2022.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15. Hobart, 14. Canberra, 21. Sydney, 26. Brisbane, 29. Cairns, 31. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Le Victoria enregistre aujourd'hui 1890 cas de COVID-19 et 5 décès. En Nouvelle-Galles du Sud, eh bien, le bilan est de 477 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès. Et c'est le dernier jour de confinement dans l'État. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord la finale de la Ligue des Nations ce dimanche entre la France et l'Espagne. Antoine Grenier pour RFI nous parle de Griezmann qui jouera son 100e match pour les Bleus.
56 matchs d'affilée en bleu jusqu'ici, 41 buts au compteur, autant que Michel Platini. Au-delà des chiffres, Griezmann en équipe de France, c'est l'homme clé du système de Didier Deschamps. Un rôle que le sélectionneur rappelle régulièrement.
Il est sur cette série de matchs consécutifs auxquels il a tous participé depuis bien longtemps, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, même si c'est avec moi, il n'avait pas ce statut peut-être qu'il a eu après de titulaire, mais depuis l'Euro 2016, c'est un joueur qui est ultra performant et ultra important pour l'équipe de France.
Fêter sa 100e sélection avec un France-Espagne, ou comment résumer son identité en un match? À 30 ans, Antoine Griezmann est revenu à l'Atlético de Madrid, où son talent avait trouvé sa pleine expression de 2014 à 2019. Et après plus de 15 années passées outre Pyrénées, à la Real Sociedad, à Madrid ou au Barça, le Français sait ce qu'il attend s'il perd cette finale.
Surtout le fait que ce soit la 100e et une finale. J'espère que ça va bien se terminer avec une coupe et une fête après le match. Il y a aussi ce côté de ne pas revenir en Espagne en ayant perdu, donc c'est un petit plus pour rentrer en Espagne en ayant gagné. Sinon, je vais avoir Coquet tous les jours qui va me chambrer. Mais ouais, j'aimerais bien chambrer, moi, le lundi.
Chambrer pour, à travers les Bleus, prendre une revanche sur ces derniers mois compliqués en Liga.
Et puis, les fans espagnols à Madrid attendent la finale avec impatience. Écoutez ce reportage de Pierre Chaperon pour RFI.
En ce week-end prolongé en Espagne où le pays va célébrer mardi sa fête nationale, les supporters de la Roja se prennent à rêver. Et s'ils accrochaient un nouveau trophée, pas aussi prestigieux bien entendu que la Coupe du Monde ou l'Euro, mais tout aussi agréable à prendre, 9 ans après le dernier titre international. Après s'être arrêté en demi-finale de l'Euro et obtenu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Basque est capitaine de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, double passeur des décisif mercredi à San Siro, a déjà hâte d'y être.
C'est important de gagner ce genre de match, de gagner le tournoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi beaucoup d'anciens et d'autres qui viennent plusieurs fois et s'adaptent petit à petit à la dynamique de l'équipe. Dans le football, il faut profiter des opportunités et c'est comme ça que ça se passe. Un mec comme Gavi l'a prouvé dans un premier temps au Barça et ensuite, dans un second temps, il a saisi l'occasion qui lui était donnée en sélection. Et donc, bon, nous, il ne nous a pas surpris, on est plutôt content qu'il soit ici, qu'il continue de se battre et de travailler comme il le fait en ce moment pour qu'il gagne d'autres matchs.
La jeunesse au pouvoir, Ferran Torres, buteur buteur mercredi, 21 ans, mais aussi Jérémy Pinault, originaire des Canaries, 19 ans, qui commence au fur et à mesure à se faire une place de titulaire chez les champions d'Europe de Villarreal. Et puis surtout, le joueur du Barça, Gabi, devenu à 17 ans et 62 jours le plus jeune joueur de l'histoire à débuter dans un match de la Roja. Pas mal pour cet Andalou qui ne compte que 363 minutes de jeu au haut niveau sur 900 possibles cette saison, même s'il reste encore du chemin.
Et maintenant, direction Marseille pour un dernier hommage à Bernard Tapie pour ses funérailles. C'était vendredi. Éric Chorin, RFI.
Ils sont venus, ils sont tous là derrière la famille de Bernard Tapie, les supporters de l'OM, pour accompagner le corps de celui qu'ils appellent le boss jusqu'à la cathédrale de la Major. Tout de noir vêtu, mais l'écharpe ciel et blanche autour du cou, et leur amour inconditionnel pour celui qui a redonné sa fierté à la ville en conduisant leur club sur le toit de l'Europe il y a près de 30 ans. Antoine est l'un d'entre eux.
Je vous en parle, j'ai la chair de poule, j'ai 52 ans, je suis grand-père et je suis grave ému, quoi, parce que c'est Tapie. Il nous a mené à Munich et nous, on va le mener au cimetière.
De Munich, où les Phocéens ont soulevé la Coupe d'Europe des clubs champions, la seule remportée par un club français à ce jour, jusqu'au cimetière de Mazargues, un cimetière de quartier situé à une vingtaine de minutes à pied du stade Vélodrome, tout un symbole, celui d'un Bernard Tapie né à Paris, mais qui a choisi d'être enterré dans sa ville de cœur, l'ancien joueur de l'OM, Éric Dimeco.
Il était clivant, hein, soit on l'adorait, soit on le haïssait. Je crois que les derniers mois et même les quatre dernières années, la manière dont il a combattu la maladie, la manière dont il en parlait, a inspiré aussi beaucoup de gens. Et puis il a donné tellement à Marseille, aux Marseillais, son dernier vœu de venir être inhumé ici à Marseille a grandement touché les Marseillais en général, pas que les supporters.
Et puis 30 noms dévoilés pour le Ballon d'Or avec seuls deux noms africains, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
30 noms et seulement deux Africains à côté des inévitables Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Riyad Mahrez, toujours lui, l'attaquant de Manchester City, et Mohamed Salah, l'Égyptien. Pas de Sadio Mané dans cette liste, mais le Sénégal aura quand même un joueur en quête du titre individuel suprême. Édouard Mendy a été retenu parmi les candidats au trophée Yashin de meilleur gardien du monde. Le 65e Ballon d'Or et les autres prix seront remis le 29 novembre prochain à Paris.
Et puis les qualifications de la Coupe du Monde en Afrique avec le match Angola-Gabon marqué par une polémique à cause du Covid vendredi, comme nous l'explique Martin Guèze pour RFI.
Test tant détesté par les panthères gabonaises. Si l'épisode de la nuit de Banjul, lorsque les hommes de Patrice Neveu avaient dormi à l'aéroport gambien pour cause de tests non conformes, est resté dans les mémoires, celui de Luanda y ressemble. Durant une heure et demie, les joueurs du Gabon n'ont pas su s'ils pourraient affronter les Palancas Negras, car les Angolais contestaient l'authenticité des tests gabonais. Un événement qui a pu perturber l'échauffement des panthères. La nuit de Banjul de l'an passé avait mené Pierre-Emerick Aubameyang et les siens à s'incliner face à la Gambie dans la course à la qualification pour la CAN. Il en a été de même cette fois-ci contre l'Angola, une défaite 3-1, catastrophique sur le plan comptable. Après un revers sur le fil contre la Libye et un nul concédé à la dernière seconde face à l'Égypte, le Gabon est dernier du groupe F et est en train de rater le test mondial sur le terrain cette fois-ci.
Et puis à 3 mois du début de la CAN, où en est le Cameroun? Après 2 reports, le pays est-il prêt pour accueillir la compétition? Écoutez ce reportage de l'envoyé spécial de RFI sur place, Olivier Pron.
Tous les stades que l'on a vus à Garoua, à Bafoussam, à Limbé, exactement le même que Bafoussam, sont des enceintes de 20, 25 000 places. Aucun problème. On connaissait le stade Japoma, Douala, 60 000 places. Il était prêt pour le Chan. Aucun problème. On connaissait Amadou Ahidjo, l'autre stade, le stade historique de Yaoundé, qui a été rénové. Olembe, c'est le petit joyau, celui voulu par les plus hautes autorités de l'État. Alors c'est vrai que toutes les pelouses qu'on a vues, elles sont superbes. Les stades globalement vont bien. À Olembe, il y a quand même encore un gros problème de finition extérieure. Si jamais on imaginait demain pouvoir y organiser un match d'ouverture ou une finale de CAN, autant vous le dire tout de suite, ça ne serait pas possible. Les joueurs pourraient jouer, mais ceux qui viennent les regarder iraient dans de drôles de conditions. Donc voilà, il y a encore 2 mois, nous a-t-on dit, pour que tout soit fini. Ils misent sur fin novembre, ils espèrent mi-novembre, pour que tous ces abords soient enfin terminés. Enfin, ça devrait être le cas.
Et puis, il y a eu les rencontres avec les figures du foot camerounais. Olivier Pron.
Dites bien aux gens que je suis prêt à aller les chercher à l'aéroport. Roger Milla qui vous dit, vas-y, viens, monte dans ma voiture, je t'emmène au stade. Donc il est prêt à accueillir les gens. Roger Milla, il est content, évidemment, le vieux lion. Il rugit encore et ne veut pas bouder son plaisir de recevoir, eh bien, 23 autres sélections que la sienne, celle qu'il chérit dans son cœur depuis tant d'années. 23 sélections, venir en découdre avec les lions indomptables en janvier. Rigobert Song, c'est exactement la même chose. Le sage Rigobert Song, celui qui réunit les jeunes et les moins jeunes, les ex-internationaux et les actuels. Rigobert Song, emballé à l'idée d'assister à cette CAN chez lui. Joseph-Antoine Bell, évidemment, vous l'entendez suffisamment sur RFI, il sera présent au rendez-vous. François Mambic, que l'on a rencontré, aussi le héros de 1990, il est sélectionneur adjoint. Alors lui, il rêve tout simplement d'être le 6 février au stade Olembe dont on vient de parler, assis à côté du sélectionneur qu'on ne sait ça où pour assister à la finale et qui sait la remporter.
On passe au tennis, le tournoi d'Indian Wells, les Masters 1000. Eh bien, belle performance de l'Australienne Alia Tomljanovic qui ce matin a battu Garbine Muguruza, l'Espagnol, au deuxième tour, 6-3, 1-6, 6-3. Ça passe aussi pour l'Australien Millman contre l'Américain Sock en trois manches. Ons Jabeur, la Tunisienne, a battu la Lettonne Anastasia Sevastova 6-2, 6-7, 6-3. Et puis le Français Hugo Gaston est en finale du tournoi de Barcelone. Ce dimanche, il jouera contre Kuzmanov, le Bulgare. Un mot de Formule 1, le Grand Prix d'Istanbul en Turquie avec Valtteri Bottas qui partira en pole position devant Max Verstappen. Cyclisme, Tadej Pogačar, le Slovène, a remporté le Tour de Lombardie. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Nous revenons à présent sur un personnage marquant des derniers jours en lien avec l'actualité. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Frances Haugen, la lanceuse d'alerte qui fait trembler Facebook.
Qui est-elle? Oui, Frances Haugen, elle qui, il y a quelques jours encore, était inconnue du grand public et qui se retrouve aujourd'hui à la une des médias du monde entier. Frances Haugen est une Américaine. Elle est âgée de 37 ans, ancienne employée de Facebook, le réseau social. Elle a décidé de quitter Facebook en mai dernier pour dire tout ce qu'elle savait, tout ce que le géant des nouvelles technologies cache dans sa façon de manipuler indirectement les utilisateurs. Comment, via des algorithmes, Facebook et ses près de 3 milliards de comptes actifs chaque mois met en avant ses propres intérêts, le profit, toujours plus de profit, toujours plus d'argent, quitte à rendre sciemment dépendants les utilisateurs, quitte à laisser les fake news se répandre, se propager sur Internet, quitte à attiser la haine dans les contenus. Frances Haugen a décidé de rompre le silence. Elle vient de témoigner devant le Sénat américain. Elle a remis des documents qui font trembler Facebook et son patron historique, Mark Zuckerberg. Elle est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte, diplômée en ingénierie informatique, électronique. Elle est depuis 15 ans une spécialiste des algorithmes, hein, ces séquences de codage que vous ne voyez pas derrière votre écran, mais qui font que telle ou telle publicité, tel ou tel contenu vont s'afficher en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre profil utilisateur. Frances Haugen a été diplômée de Harvard en 2011. Elle a travaillé pour Google, pour Pinterest et donc depuis 2019 pour Facebook.
Quel poste occupait-elle quand elle travaillait à Facebook?
Bien, elle a été recrutée au départ pour travailler au sein du département Civic Integrité, Intégrité civique, département de Facebook, censé servir de garde-fou pour vérifier que Facebook n'est pas utilisé pour véhiculer des fausses informations, utilisé pour manipuler des élections, interférer de façon néfaste dans la vie démocratique de tel ou tel pays. Et en cela, bien, elle a participé à de très nombreuses réunions internes au groupe. Elle a eu accès à des documents confidentiels, des études commanditées par Facebook montrant les dangers du réseau social, mais les dangers aussi d'Instagram. Instagram prisé par la jeunesse du monde entier, propriété également de l'empire Zuckerberg. Comment les algorithmes utilisés sur Instagram peuvent avoir un impact sur la santé mentale des adolescents, sur leur comportement alimentaire, l'anorexie notamment. En décembre dernier, Facebook, ignorant tous ces signaux, a décidé de dissoudre le département civique intégrité où travaillait donc Francis Hogan, fermer les yeux pour ne penser qu'au business. Eh bien, c'est là que l'intéressée a dit stop. Quelques mois plus tard, en mai dernier, elle remettait donc sa démission à Facebook et depuis, eh bien, elle distille minutieusement, méthodiquement ce qu'elle sait. Elle est partie avec des milliers de documents. Alors, elle n'a révélé, Francis Hogan, son identité que le 3 octobre dernier sur la chaîne de télévision américaine CBS. Mais auparavant, elle avait fait parvenir des documents au Wall Street Journal montrant donc les dérives, les dysfonctionnements du géant californien, laissé proliférer la désinformation, les contenus clivant pour faire toujours plus de profit, ne pas se soucier sur Instagram, on le disait, de la protection des mineurs, de leur fragilité, en leur exposant à longueur de journée des contenus de stars, des stories, des images retouchées qui ne font au final que dévaloriser l'image que les jeunes utilisateurs, seuls, eux, devant leur écran, peuvent avoir d'eux-mêmes. Eh bien, elle s'est mise en tête de dénoncer tout cela, Frances Hogan.
Et comment réagit Facebook à son créateur Mark Zuckerberg face à ces accusations ?
Bien, on sent que le malaise est latent. Mark Zuckerberg assure que ces révélations, les études citées, ne reflètent pas ce qu'est l'entreprise Facebook, que les études citées sont parcellaires, mais ce sont bien des milliers de pages de documents internes que Francis Hogan a transmis aux élus, le Congrès américain. Elle n'a pas hésité à comparer, lors de son audition, Facebook à l'industrie du tabac. Elle met en évidence le cynisme du numéro un mondial des réseaux sociaux quand elle le compare à l'industrie du tabac. Oui, on continue de vendre des cigarettes en sachant que cela va vous tuer, que cela va provoquer des cancers, mais on ferme les yeux. Elle précise toutefois qu'elle n'en veut pas directement à Mark Zuckerberg. « J'aime Facebook », a-t-elle dit, « mais je veux le sauver ». C'est le message qu'elle avait lancé en mai dernier au moment de démissionner. Mark Zuckerberg, là-dedans, eh bien, il se retrouve acculé, alors que c'est l'un des hommes les plus puissants de la planète. Sa marque était sur le point de lancer une application Instagram pour les moins de 13 ans en septembre dernier. Pour l'instant, le groupe fait marche arrière ou attend. Il fait le dos rond, Mark Zuckerberg. Il s'est exprimé sur Facebook pour répondre justement à ses détracteurs et aux sénateurs américains qui lui demandent des comptes. Au cœur de ces accusations, écrit Mark Zuckerberg, réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est tout simplement pas vrai, tranche-t-il. Et il continue. L'argument selon lequel nous mettons délibérément en avant du contenu qui rend les gens en colère pour faire des profits est illogique. Sa démonstration est la suivante. Nous faisons de l'argent avec les publicités, mais les annonceurs nous disent sans arrêt qu'ils ne veulent pas que leur publicité soit associée à des contenus nuisibles et véhéments. Francis Hogan, pourtant, explique, document à l'appui, que Facebook a conscience, complètement conscience de son rôle, de son impact délétère, mais ne fait rien donc pour que cela change. Et c'est ce qu'on appelle, dit-elle, une banqueroute morale. Elle met aussi en avant le rôle central de Mark Zuckerberg, elle le met en cause, car si Facebook, Instagram et autres WhatsApp, toute la galaxie du groupe, a des milliers d'ingénieurs à son service, celui qui décide de tout, et bel et bien Mark Zuckerberg. Il n'y a pas d'entreprise aussi puissante qui soit contrôlée de manière aussi unilatérale, avance Frances Haugen. Au final, ajoute-t-elle, la responsabilité revient à Mark Zuckerberg. Il ne rend de compte à personne. Il est, dans les faits, le concepteur en chef des algorithmes. Fin de citation.
Voilà pour le personnage de la semaine présenté par Émile Matasso. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai le plaisir d'avoir Myriam Lieberman. Bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de SBS, Myriam.
Merci pour m'avoir dans ton show.
Et on va parler de ce nouvel album qui vient de sortir, c'est le cinquième album, Just Transforming. Et l'album est parmi les finalistes du 2021 Australian Folk Alliance Album of the Year. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler?
Oui, c'est bon. Moi, je suis très contente de ça. On verra. Il va faire l'annonce de qui a gagné, quel album qui a gagné cette poste. Mais je suis très contente d'être dans le milieu de les albums qui ont des nominations. Et bon, pour moi, c'était juste un plaisir de pouvoir lancer un album avec COVID et pour pouvoir sortir de musique qui a un message très positif, parce que on a tous besoin de regarder cet changement comme une opportunité de changement positif. C'était une grande pause pour tout le monde et bon, on n'a pas vraiment sorti d'abord, mais on commence à aller.
Et vous avez eu l'occasion en 2020, 2021 d'écrire et de composer de nouvelles chansons.
Oui, donc à le début de lockdown l'année passée, j'ai commencé. J'avais certains morceaux déjà complets, mais la meilleure partie de l'album j'écris avec le premier lockdown. Et aussi j'avais la chance de gagner un poste à travers de Create New South Wales, qui m'a aidé à commencer à faire l'enregistrement. Et à part de ça, je faisais un crowdfunding avec tous les gens qui écoutent ma musique. Et bon, c'était vraiment un projet que j'ai adoré de faire et ça m'a donné beaucoup d'espoir. C'était une chose que je peux concentrer, que je pouvais concentrer avec dans un temps où je pouvais pas faire beaucoup de spectacles et je pouvais pas faire beaucoup de choses. Donc, pour avoir l'opportunité de me mettre très profondément dans un nouveau projet artistique, c'était vraiment bon pour moi et je suis très contente que c'était bien reçu.
Et on espère, Myriam, qu'avec la fin du confinement, que vous allez pouvoir retrouver votre trio, Lara Goodridge et Susie Bishop, et vous allez être on the road, comme on dit.
Je pense que ça va être quelques semaines ou bien quelques mois encore, jusqu'à ce que les gens le sentent à l'aise pour pouvoir aller à le conseil, les choses comme ça. Donc, je pense que c'est plus comme l'année prochaine qui est vraiment on va commencer. Et aussi moi je veux prendre une pause de maternité parce que bientôt je veux avoir ma deuxième bébé. Donc ça aussi c'est quelque chose qui prend du temps, mais je suis très contente de ça et je veux amener cet enfant comme mon premier enfant avec nous dans quand on fait le tour. Mon petit qui a 3 ans, il vient à tous les concerts et quand on va faire, quand on est dans le tour on est dans le festival, toujours je l'amène avec moi. Donc il est déjà dans la musique, même à 3 ans.
Est-ce que les influences de la musique africaine vous attirent toujours? Est-ce que on s'est rencontré une fois quand vous étiez à Melbourne pour l'album This is the Story Bamako? Est-ce que cette influence africaine est toujours là, présente pour vous?
Oui, l'influence est toujours là. En fait, la meilleure partie de les chansons que j'écris, c'était sur le kora, que c'est une harpe africaine, comme vous savez. Donc, avec l'instrument, c'est toujours le kora qui je base la meilleure partie de mon écriture. Mais à part de ça, je pense que c'est plus contemporain. Oui. Cet album. Mais il y a certaines chansons comme une chanson s'appelle Last Night qui a vraiment beaucoup d'influence de le rythme, surtout plus de high life style. Mais le reste, oui. C'est, je peux dire que c'est plus contemporary Australian. Mais il y a beaucoup, l'influence, c'est, si vous connaissez ma musique, vous pouvez toujours l'écouter. Oui. Mais vous l'écoutez comme une chanson, pas tellement une chanson très africaine.
Et d'après ce que je comprends, je suis allé sur votre site, je vois que vous donnez aussi des cours de musique sur Zoom en période de confinement.
Oui, j'ai quelques étudiants qui continuent avec moi et aussi avant qu'on avait un peu de pause de le lockdown. J'ai donné des cours à la maman et les enfants et c'était une chose très très jolie pour moi parce que moi aussi j'ai un petit enfant et pour pouvoir compartager mon amour pour la musique avec des autres parents avec leur bébé, c'était quelque chose de très joli et j'espère que je peux commencer ça encore. Mais mon vrai intérêt, bon, ça c'est aussi c'est un grand intérêt, mais ce que je concentre plus, c'est de l'écriture de nouvelles musiques et de pouvoir faire des spectacles avec mon trio. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir jouer ma musique devant les gens et aussi que c'est apprécié et un peu se connecter à travers la musique. Et, je suis très d'accord avec mes amis de groupe et moi aussi j'apprends beaucoup de choses de eux parce que en fait Lara Goodrich qui c'est une des membres de mon groupe, elle a beaucoup d'intérêt dans la musique française et elle est beaucoup plus et elle parle français plus que moi et elle a un groupe Bébé et Loulou et oui. Elle fait beaucoup de chansons francophones et il écrit les chansons en français aussi et mon autre membre du groupe Susie Bishop, elle aussi, c'est une musicienne très, très bonne. Elle jouait de la violine et aussi elle chante de l'opéra à part de chansons plus folkloriques. Donc, je suis dans le milieu de gens qui j'apprécie beaucoup, non seulement pour son amitié, sinon pour leur niveau de musique.
On espère que nous allons pouvoir vous voir tous les trois sur scène dès que les frontières seront réouvertes. Et on vous souhaite aussi les meilleurs vœux pour cet nouvel album, Just Transforming, et aussi parce que l'album est parmi les finalistes du Australian Folk Alliance Album of the Year. Et merci d'être intervenu sur les ondes de SBS French, Myriam, et meilleurs voeux et félicitations encore une fois pour le nouveau bébé qui arrive.
Merci. Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Ooh.
après l'interview avec Myriam Lieberman, on a entendu Myriam qui nous interprétait Last Night. C'est un extrait de son cinquième nouvel album, un podcast que vous pouvez retrouver sur sbs.com.au/french. Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce 10 octobre. Le Victoria enregistre 1890 cas de Covid-19 et 5 décès. En Nouvelle-Galles du Sud, le bilan est de 477 nouveaux cas de Covid-19 et 6 décès. Et c'est le dernier jour de confinement en Nouvelle-Galles du Sud. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. On va vous laisser avec l'été, interprété par Rovski et Feloche. À très bientôt et belle journée.
La marée monte,
tes cheveux collent, les transistors.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.